La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un écrivain de la liberté, tel était donc Kateb Yassine. Liberté politique, bien sûr, face à la France, d'abord puissance colonisatrice en Algérie, au moment où il naît à Constantine en 1929, puis face au nouveau pouvoir et à la montée de l'islamisme. Liberté formelle également dans son œuvre, avec une utilisation nouvelle de la langue française et une composition fragmentaire de ses livres qui l'apparente à l'avant-garde. Cette double liberté sera notre fil conducteur lors de cette série d'émissions qui nous conduit jusqu'à jeudi. Jeudi où il sera en particulier question de l'utilisation de la langue française par Kateb Yassine, cette langue de l'ennemi qui l'a transformée en butin de guerre. Nous parlerons également de l'année où son nom est apparu sur les affiches de la Comédie française à Paris. Kaoutar Archi et Vassine Larage seront nos invités. La veille, mercredi, nous aurons tenté d'expliquer la démarche de Kateb Yassine, dramaturge. Ce sera avec le chercheur Rabah Soukeal. Et puis enfin mardi, Charles Bonne détaillera les grands thèmes de son œuvre et en particulier lors de son dans son roman le plus célèbre, Nejma. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Kateb Yassine, nous sommes en compagnie de Benamar Médiane. Il est sociologue, professeur d'histoire de l'art dans les universités d'Oran et d'Aix-en-Provence. Il a été l'ami de l'écrivain à qui il a consacré une biographie intitulée « Kateb Yassine, le cœur entre les dents », publiée chez Robert Laffont, c'était en 2006. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Je suis né à Constantine. En 1929, je ne sais pas quel mois exactement, ça arrive fréquemment en Afrique du Nord. Mon père était oukil, c'est-à-dire qu'il était une sorte d'avocat en justice musulmane. Et il était appelé à souvent changer de résidence, de sorte que nous avons beaucoup déménagé pendant ma jeunesse. Mon père était aussi voyageur par tempérament. Et j'ai tenu déjà de lui et de ma mère une espèce de pratique quotidienne de la poésie qu'on retrouve dans toute notre tribu. Ce qui est caractéristique de cette tribu, c'est précisément que la, dans son sein, un filon poétique qui se retrouve presque chez tous ses membres, de façon naïve, de façon plus approfondie, de façon plus ou moins affirmée. Mais ce qui est curieux, en tout cas, à première vue, peut-être pour un occidental, c'est d'imaginer qu'il y ait des milliers de gens, parce qu'une tribu n'est pas comme une famille, ça comprend des milliers de gens, et que ces milliers de gens aient en commun le don poétique.
Kateb Yassine, lors d'un entretien avec Moussa Abad, c'était en 1967. Bonjour Benamar Médiane.
Bonjour.
C'est donc d'abord d'un poète issu d'une tribu de poètes dont nous allons raconter la biographie avec vous et à partir du livre que vous lui avez donc consacré, qui est d'ailleurs une biographie sans lettres tout à fait. C'est un livre éruptif, lyrique. Vous l'avez écrit de cette manière-là pour rappeler l'œuvre de Kateb Yassine ou pour rappeler peut-être la personne même de Kateb Yassine.
Oui, en effet, je pense avoir été contaminé par, par Kateb Yassine et son rapport à la fois au monde et son rapport à la culture et à la poésie en particulier.
Que vous qualifieriez comment ?
Pardon ?
Que vous qualifieriez comment ce rapport au monde et à la poésie ?
Bien, c'est un rapport quasiment magnétique. Il avait une manière de saisir derrière l'apparence des choses ce qu'il y avait d'essentiel, cette vérité que seul lui pouvait capter et traduire dans le langage qui est le sien. Je crois que il a pu du chaos créatif que constituait l'histoire de l'Algérie et son histoire intime, il a réussi à créer son propre langage poétique. Mmh. Et je crois que ce qui le distingue des écrivains, de l'ensemble des écrivains algériens et de beaucoup d'écrivains français qu'il a fréquenté, il a eu beaucoup d'amis. On parlera des rapports qu'il a eu avec des personnalités édifiantes dans le domaine de l'écriture, dans le domaine de la pensée, dans le domaine de la poésie, du roman. Commencer par Armand Gatti, mmh. Et d'autres, puisque dès 1947, il arrive et il est reçu par Aragon et Éluard. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il se pose et qu'on voit en lui le jeune poète fiévreux et immensément riche d'images qui fulguraient, qu'il arrivait à créer tout de suite une atmosphère qui était à la fois de l'ordre de l'intime, c'est-à-dire qu'il parlait, il parle de sa mère, c'est à la fois un rapport filial, mais c'est beaucoup plus vaste.
Mais c'est un peu ce qu'il vous a dit d'ailleurs quand vous lui avez dit, parce que vous étiez très proche, Kateb, j'ai envie d'écrire une biographie de toi. Il vous a répondu, mais pourquoi faire? Parce qu'il suffit de lire mes livres et je suis déjà en train de me raconter dans mes livres.
Bon, je savais bien que c'était impossible, mais justement, en étant dans cette dynamique katébienne, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais chacun peut oser, chacun peut risquer, il faut y aller. Et heureusement qu'il m'a accompagné dans la première phase. Mais je ne savais pas que j'allais écrire une biographie. C'est-à-dire qu'on enregistrait, on a commencé à enregistrer au début des années 80, en 80-82. Il était à ce moment-là exilé dans les hauts plateaux algériens et pas loin d'Oran. Et donc, il venait très souvent à la maison et on enregistrait
des entretiens. Oui. Alors, c'est vrai que la vie de Kateb Yassine est ce que vous avez appelé un continent fragmenté. Vous y voyez, je vais vous citer, un enchaînement d'archipels avec des îles-mères et des poussières d'îlots affleurant sous les turbans d'écume et qui auraient pour nom Kateb poésie, Kateb roman, Kateb théâtre, Kateb mythe et bien entendu Kateb tel qu'en lui-même, indéfiniment autre. Ça, c'est toute l'immense étendue du talent de Kateb Yassine.
Alors là, c'est là où l'on peut voir dans ces gisements sous-marins ou dans ces gisements qui affleurent à la surface de la vie ou à la surface de l'océan, son rapport privilégié avec Édouard Glissant. Ça a été une amitié à la fois rude, d'une beauté extraordinaire. Je vais vous raconter une anecdote, parce qu'elle est édifiante. Glissant avait une admiration sans borne pour Kateb, parce que il voyait en lui l'émergence et l'exercice de ce réalisme lyrique, cette rudesse dans le langage, et en même temps, sa profondeur. Et en 1958, quand il monte Le cadavre encerclé avec Jean-Marie Serrault, la pièce devait se donner au Lutès à Paris. Ils reçoivent des menaces très précises de la part de ce que l'on appelait à cette époque-là la main rouge, mais c'était aussi l'extrême droite de la rue d'Assas. Et donc Jean-Marie Serrault ne prend pas le risque, ils annulent la pièce. Ils partent à Tunis, ils reviennent et on donne la pièce au Théâtre Molière de Bruxelles. Et c'est là où là une chose extraordinaire se passe, c'est qu'au moment où ils s'apprêtaient à monter en scène, ils reçoivent un coup de téléphone de la même menace en précisant que le premier qui montera en scène sera abattu. Le premier qui devait monter en scène, c'est Glissant, qui avait écrit un très beau texte de présentation du cadavre encerclé. Et là, il y a une espèce de paralysie Kateb et Glissant. Et quand j'ai revu Glissant, moi, en 1998 à New York, je lui dis, écoute, parle-moi de cet événement. Il me dit, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que le cadavre encerclé, donc c'est une tragédie, et je devais, moi, être sur scène, dans le cercle de lumière, futur cadavre. Il y avait une espèce de proximité, une espèce de superposition de la tragédie globale qui se passait en Algérie avec une tragédie particulière qui se jouait sur la scène d'un théâtre.
Dire qu'il y a eu, enfin, dans mon monde premier, il y a eu, bon, disons, l'institutrice française et ma mère, en perpétuel conflit d'ailleurs, parce que c'était deux mondes. Ma mère, c'est l'Algérie, bon, pieds nus à la maison, avec une longue robe, parlant une autre langue, et nous parlons une autre langue, et puis l'institutrice en talons hauts, 20e siècle, pays dominateur, prestigieux, la France, enfin bon, c'est-à-dire... C'est vraiment le monde supérieur, si on veut, mais un monde encore lointain, dont je me rapprochais peu à peu, et au détriment du premier, forcément, parce que celui que je préférais, c'était le monde de ma mère, mais plus l'école m'intéressait, et plus fatalement, je me détachais de ma mère. Alors ça créait un conflit en moi.
Kateb Yacine, c'est donc cette vie entre deux mondes qui s'incarne peut-être dans les lieux de naissance et de mort de Kateb Yacine, Constantine le 2 août 1929 et Grenoble en 1989. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer sur cette espèce de vie à deux pôles entre l'Algérie et la France, qui semble tout de même au cœur de la problématique de Kateb Yacine?
Oui, alors lui-même disait qu'il avait le don d'ubiquité parce que il est né à Constantine, mais en fait il est enregistré à Condé-Smendou, à une ville de 250 kilomètres de Constantine, parce que son grand-père voulait absolument le prendre avec lui, et à sa naissance, il y a une espèce de rapte qui s'opère, le grand-père rapte son petit-fils, et il l'emmène à Condé-Smendou, où il est enregistré à l'état civil. Et donc, il est né à Constantine, effectivement, mais il est enregistré, et donc là, il y a une double polarité, et la polarité de Grenoble, ce sont tout simplement des circonstances. Quand il est tombé malade, il était à Oran, il était chez moi, il était vraiment pas bien, ça faisait 4 ou 5 jours qu'il n'arrivait pas à se lever, qu'il était en sueur, et il a commencé, alors c'est là où il y a une chose extraordinaire, à écrire une espèce d'autobiographie.
Donc vous avez apporté
le manuscrit. Je ramène ici parce qu'il avait pris un vieil agenda. Et là, c'est écrit en 89, l'agenda est de 87. Et il écrit les premiers jours de sa vie, les premiers émois poétiques. J'ai trouvé ça, je ne sais pas quoi en faire parce que on peut pas l'éditer, mais en même temps, il avait ce désir profond de reprendre le récit de sa vie, le récit de sa tribu.
Mais donc ce récit, il se fait tout de même des deux côtés de la Méditerranée, parce que dans la vie de Kateb Yacine, il va y avoir des allers-retours
constamment, pas seulement avec la France, parce que dès 1956, il y a une relation privilégiée avec l'Italie et avec les intellectuels italiens en particulier.
Même si pour lui, ça a été difficile de vivre en Italie parce qu'il ne retrouvait pas la communauté des Algériens
absolument,
comme elle existait en
absolument,
France.
Absolument, mais il les emmenait avec lui. Il a emmené des Algériens avec lui, il a emmené le peintre ici à Keum, il a emmené ce qu'il appelait, lui, son secrétaire guitariste, Hlekas, quelqu'un qui faisait un peu mythomane, et, qui voulait jouer de la guitare à la Scala de Milan, qui proposait lors d'une grande réunion avec les écrivains algériens, il leur demande de respecter 10 minutes de silence, parce qu'il y avait beaucoup de victimes en Algérie. Donc, c'était pas seulement 1 minute, il fallait 10 minutes de silence. Il y avait comme ça une espèce de théâtre constant. Et Kateb, effectivement, vagabonde d'un pays à l'autre, ce qui rend difficile l'écriture de sa biographie et le recensement de son œuvre.
Mais alors, le théâtre, c'était déjà quelque chose qui se jouait très jeune chez lui, puisque sa mère, dont on pourrait parler maintenant, faisait du théâtre pour, quand son père n'était pas là, tenir éveillé le petit Kateb Yassine jusqu'à ce que le père rentre, parce que la mère avait peur de se retrouver seule dans la maison avec son enfant endormi. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'elle ?
C'est une relation fusionnelle au sens absolu du terme. C'est pas une mère possessive, c'est pas une mère castratrice, comme dirait Freud ou les psychanalystes. C'est une mère attentive, c'est une mère terriblement amoureuse de son enfant. Elle a eu un garçon qui est mort avant Yassine. Elle a eu 2 jumeaux qui sont morts, donc c'est son seul garçon. Et ce garçon, elle le chérit, et elle le chérit parce qu'elle ressent chez lui quelque chose d'original, quelque chose de particulier que l'on ne retrouve pas chez les autres garçons.
La poésie, déjà, la poésie, peut-être.
La poésie. Et donc, ils sont complices parce que la mère de Yassine, c'est un personnage d'une beauté. J'ai retrouvé une photo où elle a 17 ans, 16-17 ans. C'est un véritable portrait de Modigliani. Mais un véritable portrait. Elle est toute mince, toute fragile. Et elle s'appelle Jasmin, s'appelle Yasmine. Et elle est d'une beauté diaphane, d'une beauté apparemment fragile. Et elle est en habit d'intérieur qui prouve à la fois la modernité de vestimentaire et donc d'une liberté à l'intérieur de la famille. Elle n'est pas mariée encore, hein, les jeunes filles.
Mais de fait, c'est une femme fragile et c'est une femme qui passera 30 années de sa vie internée dans un hôpital psychiatrique.
Parce qu'elle a une vie conjugale extrêmement mouvementée, très dure. Le père de Yassine gagne de l'argent, mais il en perd plus qu'il ne gagne. À la fois un homme hédoniste qui aime la belle vie, qui va à Bonn, à Naba, faire la bringue, qui a des relations, qui a une voiture, qui gagne de l'argent. Hein. Il est avocat, mais il dépense énormément. Il était déjà marié, il a une fille d'un
Et ça, elle le vit très très mal.
Yassine le vit très mal. D'ailleurs, il ne se réconcilie véritablement avec son père que dans un long poème du Vautour où il clame en fait son amour pour son père.
Son père qui les a quittés jeune parce qu'il est mort d'une maladie.
Il est mort à 50 ans, en 1950, il est mort très jeune effectivement, et il laisse Yassine à la charge qui prend en charge ses deux sœurs, une tante et une cousine, et là ils partent sur Alger. C'est là où il va travailler comme docker, il va travailler à Algérie
publique. Oui, parce qu'il doit évidemment, il est en charge de nourrir sa famille. Avant cela, il faut quand même parler d'un épisode qui est absolument fondamental, Benamar Médiane, dans la vie de Kateb Yassine, c'est l'épisode de Sétif. Il faut donc rappeler, on l'a entendu dans la première archive arrive que d'abord Katabiassine a été à l'école coranique, puis son père a jugé qu'il était mieux pour lui, parce que le français et les français dominaient l'Algérie, qu'il aille à l'école française. Et puis, quand arrive la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a les événements de Sétif. Il a fait le récit de cette journée à laquelle il a assisté dans un texte que je vous propose d'écouter, au moins en partie, lu ici par Guillaume Gallienne.
Ce jour-là, c'était la fête, la victoire contre le nazisme. On a entendu sonner les cloches et les internes ont été autorisés à sortir. Tout à coup, j'ai vu arriver un immense cortège. C'était mardi, jour de marché. Il y avait beaucoup de monde et même des paysans qui défilaient avec leurs vaches. À la tête du cortège, il y avait des scouts et des camarades du collège qui m'ont fait signe et je les ai rejoints sans savoir ce que je faisais. Immédiatement, ce fut la fusillade, suivie d'une cohue extraordinaire. La foule refluant et cherchant le salut dans la fuite. Une petite fille fut écrasée dans la panique. Ne sachant où aller, je suis entré chez un libraire. Je l'ai trouvé gisant dans une mare de sang. Un ami de mon père qui passait par là me fit entrer dans un hôtel plein d'officiers qui déversaient des flots de propos racistes. Il y avait là mon professeur de dessin, une vieille demoiselle assez gentille, mais comme je chahutais dans sa classe, ayant parlé une fois de faire la révolution comme vous les Français en 1789, elle me cria « Eh bien, Kateb, la voilà votre révolution, vous êtes content ?» J'ai filé sans répondre. Il y avait partout des soldats en position de tir. Plus question de retourner au collège. Mon père étant gravement malade, j'ai décidé de le rejoindre dans le village de Bouga, à 45 km de Sétif. Les gens arrivaient de partout. Les rumeurs les plus folles couraient. Certains disaient que les Turcs avaient débarqué, d'autres qu'on avait pris Alger. Jamais je n'avais vu autant de monde. À l'arrivée du car se trouvaient mes amis de l'école française. « Ça y est, leur ai-je dit. Le peuple s'est soulevé. » Je ne savais même plus à qui je parlais. Dans la nuit, on a entendu des coups de feu. La folle du village a été tuée près de l'église et dès le lendemain, on a vu arriver les tirailleurs sénégalais. Le 13 mai au matin, j'ai été arrêté par des inspecteurs qui m'ont conduit à la prison de la gendarmerie. Et là, j'ai commencé à comprendre les gens qui étaient avec moi, les gens du peuple.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Benamar Médienne, est-ce que ce qu'on vient d'entendre là, ce n'est pas tout simplement le moment fondateur de ce qui va être ensuite la vie et l'œuvre de Kateb Yassine ?
Il est doublement fondateur. Il est fondateur chez Kateb de son engagement politique et poétique. Il va rester dans cet état fiévreux pratiquement toute sa vie. C'est-à-dire qu'il a vécu de l'intérieur, lui-même comme acteur involontaire, puisque je suis allé au collège il y a quelques années où il était interne. Donc quand on a entendu les grondements dans la ville, on a libéré les élèves. Bon, lui, il n'est pas de Sétif. Il habite à une trentaine de kilomètres de Sétif. Et donc, il ne sait pas où aller, il est dans la rue. Et il voit des monceaux de cadavres. C'est quelque chose d'absolument ahurissant. Il perd le sens de l'orientation, il perd le sens de l'équilibre, et en même temps, il reste dans une vigilance quasi instinctive. Il circule dans les rues, il court dans les rues, m'a dit une fois, comme si j'étais le pyromane moi-même de la ville, comme si j'avais mis le feu à la ville de Constantine. Et il est arrêté, ligoté avec d'autres prisonniers et emmené dans une grange et à la suite dans une prison où il ne sortira que quelques mois plus tard. Sa mère, qui ne le voit pas rentrer, qui attend, qui se lacère le visage et la poitrine, sombre dans la folie. C'est ce jour-là qu'elle sombre dans la folie. C'est son, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est son fils unique et c'est elle, en fait, qui est en lui également. C'est sa manière à elle de s'exprimer, de dire « j'existe à travers mon fils ». C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'était une relation fusionnelle, mais en même temps... protectrice, elle ne le castre pas, elle le laisse à sa liberté créatrice.
Donc après ce terrible moment dans la vie de Kateb Yassine, pour sa sécurité, on va l'envoyer au loin, dans sa famille, et en particulier chez cette femme, Nejma, qui est donc la femme qui donnera son titre à son roman le plus célèbre.
Oui, et sa vie,
là,
toute sa
on
vie.
Est aussi dans un autre moment fondateur, mais cette fois de sa vie sentimentale.
Ah oui, mais ça c'est les... Alors, c'est pas des strates, hein, c'est des éléments quasiment organiques qui font à la fois le corps et l'esprit de Kateb. Effectivement, son père veut, enfin il veut qu'il continue ses études, parce que il faut préciser que Kateb Yassine a le niveau de troisième, c'est-à-dire qu'il n'a pas de bac, il a aucun diplôme, il a le niveau de troisième, et son père veut absolument qu'il fasse des études et qu'il fasse une carrière universitaire. Donc, il l'inscrit au lycée de Annaba, de Bonn, et il est hébergé chez sa cousine.
Qui est mariée. Qui est un peu plus âgée que lui, il doit avoir 17
ans.
Elle a
10 ans de plus. Elle est d'une beauté à tomber, comme on dit aujourd'hui. Elle est d'une beauté de roman. C'est elle, chose extraordinaire, qui donne le nom de Nejma à son œuvre future, puisque il écrit Soliloque, un premier recueil de poèmes, dont elle fait la préface, qu'elle signe de son nom. Mais cette préface a disparu. J'ai réussi à avoir un exemplaire il y a quelques années. Pardon, je voulais tout simplement, pour faire le lien avec ce sentiment qu'il porte, enfin cette nécessité, ce sentiment de liberté, et faire un petit peu le lien historique avec aujourd'hui. Il y a un court poème écrit en 1950, hein, ça ne s'adresse pas au pouvoir algérien. C'est tout simplement ce qu'il dit, que croulent les prisons et que soient honorés les ancêtres. La potence dressée sur une île africaine, ce n'est pas la première que nous renverserons. Debout pour libérer la vieille Afrique, au cœur hérissé de flèches et de fleurs. Ça, c'est 1950. Donc, il y a toute la force poétique et politique de Kateb Yassine dans ces quelques vers-là.
À partir de 1957. Je suis devenu d'abord l'écrivain public de la rue du Château des Rentiers. Là, c'est une immense rue, longue, une très longue rue. Et il y avait là beaucoup de cafés nord-africains. Et je me suis donné pour tâche de leur écrire leurs lettres, bon, et d'essayer de les organiser même. J'ai vécu avec eux un an et demi pratiquement. Ça a été encore un autre coup de foudre, mais cette fois pour les émigrés. Parce que j'ai compris qu'ils avaient créé le mouvement national, au fond. Puisque notre mouvement national a été créé par des émigrés. Un peu comme pour les Vietnamiens, avec Ho Chi Minh. Pour des raisons faciles à comprendre. C'est parce que, d'abord, les émigrés étaient vraiment dans la gueule du loup. C'était des prolétaires et des sous-prolétaires expatriés. Ayant laissé leurs femmes et leurs enfants en Algérie. Et donc ils souffraient intensément et ils aspiraient intensément à la libération. Et ils se sacrifiaient beaucoup. Ils donnaient tout ce qu'ils gagnaient à la famille ou au parti. Et eux, ils vivaient de pois chiches ou de viande avariée.
Alors on racontera dans les émissions qui arrivent comment se développe cette histoire d'amour impossible avec Nejma. Toujours est-il qu'il faut dire aujourd'hui que pour faire vivre les siens, pour gagner de l'argent, Kateb Yassine va d'abord être obligé d'être docker, puis va partir en France, d'abord pour Marseille avec son ami Malek Haddad, et puis ensuite à Arles, où ils vont terrasser, maçonner, et puis...
Vendanger
aussi, ramasser les olives, je crois, mais conduire des brouettes, être aussi veilleur de nuit, enfin faire tous les métiers. Il raconte qu'il lui a fallu assumer à plein temps son statut d'immigré à ce moment-là.
Oui, parce que c'est là où il prend conscience de la terrible solitude dans laquelle vivent les immigrés, même s'ils sont en groupe. Parce que c'est un milieu masculin, c'est un milieu autarcique, qui vit à l'extérieur de la ville d'Arles ou de Marseille ou de Paris, et qui travaille énormément physiquement, c'est-à-dire la seule énergie dont il dispose, c'est l'énergie physique.
Et alors, on est à ce moment-là en pleine guerre d'Algérie, lui est en France, est-ce qu'il est proche du FLN?
Comment là, ça on n'est pas encore pendant la guerre d'Algérie, hein, on est encore dans le début des années 50, parce que c'est au moment où il fait la connaissance de la revue Esprit, de Jean-Marie Domenac, de Jean-Marie Serrault, qu'il s'installe, hein, et qu'il présente la première rédaction du Cadavre encerclé en fin 1954, décembre 54, janvier 1955. Mmh. Je voulais ajouter juste une chose. Vous savez que j'ai rencontré Nejma. Je l'ai vu, parce que quand Kateb est mort, en même temps que lui meurt son cousin. Et donc il y a des espèces encore de reconstitution du roman à travers la réalité, et on transporte le corps à partir de Marseille, et là, elle est présente. Et donc je suis avec elle à un moment, dans le hangar du fret, où nous sommes tous les deux debout devant les deux cercueils, et elle se présente comme étant Zoubida Kateb, la sœur de Mustapha et la cousine de Yassine, et là où il y a eu un cérémonial de fleurs, et c'était absolument bouleversant et magique comme situation, puisque moi, j'étais le témoin de ce versement du roman dans la réalité. Il y a un versement.
Alors on reparlera de tout cela et aussi de la question de la guerre d'Algérie dans quelques minutes. Mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver la chronique. Elle vous est proposée aujourd'hui par Philippe Roger.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Philippe Roger, directeur de la Revue Critique. Bonjour à vous, Philippe.
Bonjour, Mathieu.
En juin, la Revue Critique nous emmène à Rome. Alors, pas la Rome de Matteo Salvini, mais bien la Rome antique, sous le titre « Les habits neufs de la Rome antique », un sujet qui semble loin de vos préoccupations habituelles à Critique, Philippe.
Oui, vous prenez le taureau par les cornes. Il s'agit du numéro de mai, en fait, mai qui est en ce moment en vente.
Pardonnez-moi.
Et on peut bien se poser la question, la Rome antique, est-ce que c'est encore notre affaire ? Pendant des siècles, c'est Montaigne qui le disait très joliment, nous avons été embabouinés de Rome. On peut traduire, mais ce sera moins joli que chez Montaigne, toqués de Rome ou accros de Rome, même de plusieurs Roms. Montaigne, lui, n'avait Dieu que pour l'ourps républicaine, peuplée de héros qu'il avait rencontrés dans Plutarque. Je cite Montaigne, c'est toujours un plaisir. « Cette vieille Rome libre, juste et florissante, car je n'en aime ni la naissance ni la vieillesse. » Autrement dit, ni les rois brutaux, ni les empereurs décadents. Mais d'autres, on pourrait citer Paul Valéry par exemple, ne cessent de regretter la Rome impériale et le monde policé par sa puissance. Alors, depuis quand sommes-nous, si j'ose dire, désembabouinés de Rome ? Depuis le collège unique, depuis que le latin n'est plus le passeport obligé de la haute méritocratie, je ne crois pas du tout. Je crois que la grande cassure, elle intervient beaucoup plus tôt. Elle intervient, paradoxalement, avec la Révolution française. Paradoxalement, puisque la Révolution a adoré l'Antiquité. À la Convention, donc, Rome triomphe, mais c'est comme pastiche, ou comme dirait Marx, comme farce. Et par contre-coup, c'est tout notre imaginaire romain qui commence à se lézarder, surtout sur la façade morale et politique. Les contre-révolutionnaires se gaussent du drapé romain des patriotes, et les patriotes eux-mêmes finissent par se poser des questions. Les phénomènes inouïs de la terreur, comme disait le conventionnel Louis-Sébastien Mercier, est-ce qu'ils n'auraient pas quelque rapport avec cette contrefaçon de l'antique ? Deux générations plus tard, en 1865, Jules Vallès écrit un article que je trouve absolument étonnant, dans lequel il impute l'aveuglement politique de toute sa génération, on peut appeler gauchiste si on veut, aux professeurs de rhétorique et à leur exaltation des Romains. Je ne peux pas ne pas citer une phrase de Vallès. « Nous avons jusqu'à 20 ans, quelques-uns jusqu'à 30. Nous avons rêvé bataille et mort, roche tarpéienne et capitole, songeant à opprimer le monde au nom d'une unité terrible et aiguisant contre la hache de Brutus le couteau de Guillotin. » Extraordinaire autocritique. Pour Jules Vallès, l'insurgé, futur communard, Rome est devenue politiquement suspecte jusque dans son héroïsme républicain. Alors bon, ces attractions passionnées et ces violentes palinodies, elles nous sont devenues très étrangères, voire incompréhensibles. Rome n'est plus ni un modèle ni un repoussoir, et il n'y a pas lieu de le regretter. Nous avons mis Rome à distance, mais elle n'a pas cessé de nous passionner. C'est un peu comme le latin. Depuis qu'il n'est plus au cœur de nos humanités scolaires, il se porte mieux que jamais parce qu'il est porté par la curiosité et le désir des enseignants et des enseignés.
Donc vous nous dites qu'on ne s'identifie plus à Rome, on ne cherche plus à imiter Rome, on ne cherche plus à se projeter dans Rome.
Oui, c'est exactement ça. Je pense au regretté Yann Thomas, qui enseignait à l'école au-dessus en sciences sociales, et dans un livre paru posthume en 2017 sur le crime de parricide à Rome, paru chez Albin Michel, Yann Thomas demande que le droit romain soit enfin analysé comme, eh bien justement, comme du droit romain. C'est-à-dire que le mirage de la familiarité est dissipé. Nous pouvons regarder Rome en face plutôt que de la rejouer en farce, si j'ose dire. Et c'est ce que font une brillante cohorte de philosophes, philologues, littéraires, historiens. Quelques noms, Claudia Moatti, restituant l'histoire de la Respublica comme dissensus politique et social. Nathalie Barandon, s'attaquant au massacre perpétré par Rome. Je dois dire que dans les cours de latin de mon temps, et voilà bien une question qui n'était jamais posée. Alexandre Grandazzi, qui retrace la monumentale histoire de la ville elle-même, ou encore Dario Mantovani, qui a tout récemment été élu au Collège de France, et qui nous fait redécouvrir comme littérature, une littérature méconnue, les œuvres des juristes romains. Alors, toutes et tous nous montrent Rome comme nous ne l'avons jamais vue. Ils ne cherchent pas à nous ré-embabouiner, pas plus que nous ne cherchons, nous, à Saint-Jérôme. Rome devient une série de questions qui nous concernent au présent. Démocratie et hiérarchie, consensus et dissensus, statut du juridique, urbanisme et puissance. Rome n'est plus dans Rome, elle est à nos côtés, elle nous présente des cas qui recoupent nos problèmes. Et je dirais même ceux de la planète. Ça fait 2000 ans qu'on spécule sur la chute de l'Empire romain. Je suis sûr, cher Mathieu, que vous vous posez la question chaque matin en vous rasant, mais peut-être vous ne vous rasez pas, en fait.
En fait,
aujourd'hui, les néo-historiens de l'Empire, comme l'américain Kyle Harper, proposent une réponse qui est très argumentée et assez sidérante. La chute de l'Empire romain, question de température, de perturbations atmosphériques, de pandémies nouvelles sur fond de chaos dans l'écosystème. Bref, les barbares avaient bon dos, les tueurs de Rome, ça n'a pas été les Huns, ni les farouches germains, mais les germes. Et les bacilles, celui de la peste en particulier. Voilà des siècles qu'on nous fait le coup de la décadence qui ruine les empires. Et nous découvrons, un peu sidéré, qu'il y a un autre scénario possible, celui de la catastrophe climatique. Voilà ce que nous avons voulu appeler dans Critique les habits neufs de la Rome antique. Ce n'est pas du rhabillage, Rome fait peau neuve, nous avec. Quant à l'Italie de Monsieur Salvini, cher Mathieu, vous ne perdez rien pour attendre. Nous vous y emmènerons dès le mois de septembre, mais nous la prendrons à brousse-poil avec un numéro spécial entièrement consacré au grand écrivain sulfureux Walter City.
Bon, et puis on peut signaler aussi, en particulier dans le Critique de ce mois-ci, l'article de Jean-François Louette, c'est sur la correspondance entre Bataille et Ambrosino. Bataille, qui fut le fondateur de votre revue, Philippe. Et si on souhaite en savoir davantage justement sur l'histoire de Critique, eh bien, il reste encore quelques places au colloque de Cerisy que vous organisez sur ce thème. Il commence le 14 et se termine le 21 juin au château de Cerisy-la-Salle. Tous les renseignements disponibles sur le site cerisy-colloque.fr ou sur le site de la revue Critique. À très bientôt, Philippe Roger. écoutez toujours la compagnie des auteurs. Nous revenons cette semaine sur la vie et l'œuvre de l'écrivain algérien Kateb Yassine, avec aujourd'hui son biographe et celui qui fut également son ami, Ben Ammar Médiane.
Le combat pour l'indépendance commencé par Abdelkader continue et a toujours continué. Depuis des siècles, un peuple lutte et crève dans l'ombre, coupé des peuples amis, réduit à son seul horizon. Et c'est pour cela que nous demandons à tous nos amis, et en particulier à nos amis français, de rompre le mur qui nous sépare. À Paris, nous pouvons parler un peu, déchirer ce linceul d'infamie dans lequel on prétendait nous enterrer vivants. Les peuples deviennent frères dans la mesure où ils deviennent libres. Toutes les masses sont naturellement amies de notre liberté. La masse française ne peut pas nous oublier. Elle nous a trouvés près d'elle dans tous ses combats. Nous sommes convaincus que quand on parle d'indépendance à Paris, on ne peut pas être méconnu. Nous avons eu parmi vous les plus chauds, les plus sincères amis. Je ne citerai que l'émouvante figure d'Anatole France, dont le livre « Sur la pierre blanche » est tout entier une magnifique plaidoirie en faveur des colonisés. Et Dieu sait qu'Anatole France n'était ni fanatique, ni grand tabou de peuplade sauvage. Quant à moi, j'aurais accompli ma plus belle mission si je gagnais de nouvelles sympathies françaises à la cause de l'indépendance de mon pays.
Une lecture donc par Guillaume Gallienne d'une conférence donnée par Kateb Yassine. Il avait seulement 17 ans. C'était à Paris et cette conférence fait partie des textes réunis dans le volume Minuit passé de 12 heures, paru aux éditions du Seuil en 1999. Il faut donc revenir sur cette période de la guerre d'Algérie, hein, qui vient donc bien après la conférence qu'on vient d'entendre en extrait. Quelle a été sa position? Comment voyait-il le mouvement du FLN, par exemple? Peut-on dire qu'il en a fait partie?
Il était totalement engagé, hein, avec le FLN, mais dans le cadre de sa mission, hein, de sa mission intellectuelle. Et donc, il va nouer des relations avec les intellectuels français, comme Sartre en particulier. Sartre va le soutenir.
Il va fréquenter Sartre et Beauvoir.
Oui, Sartre et Beauvoir, dès 1955, le soutiennent. Mais il y a aussi Jean-Marie Serrault et Geneviève Serrault, non, qui, à travers le théâtre...
qui vont monter des pièces de Kateb
Yassine. Oui, à travers le théâtre, font circuler les idées d'indépendance. Il y a également Jean-Marie Domenac, qui a été très, 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 très actif. Or, ce sont ces gens-là, aussi bien Serrault que Gatti, que Domenac, c'est des anciens résistants. C'est des résistants qui ont résisté au sens militaire du terme. Ils étaient dans les maquis du Vercors ou à Lyon, et donc ils sont très réceptifs. Et en même temps, ils ont affaire à un poète, ils ont affaire à un écrivain, ils ont affaire à un dramaturge qui leur présente des textes qui sont la preuve flagrante qu'une Algérie insoupçonnée existe. Elle existe à travers la conférence dont vous venez de citer les références en 1947. Et on s'étonne qu'un garçon de 17 ans et demi, avec un niveau de troisième, écrive un texte aussi élaboré sur le plan de la référence historique. C'est véritablement... C'est à tomber, ouais. c'est vraiment étonnant. On se dit comment il arrive à faire pour aboutir à un tel travail.
Donc, soutien évidemment aux forces pour l'indépendance de l'Algérie, mais en même temps, critique du radicalisme idéologique du FLN, quand il explique que finalement on peut résumer en un seul point le programme du FLN, c'est l'interdiction faite aux Algériens de consommer de l'alcool et du tabac. Donc il y a quand même une vision qui est assez distanciée. Est-ce que vous diriez ça?
Ça allait beaucoup plus loin. Ça allait beaucoup plus loin que... Alors, effectivement, l'intelligentsia algérienne à Paris réagit violemment contre cette terrible mesure que le FLN prend avec un prétexte complètement fallacieux, en disant c'est pour miner l'économie française. Donc ne buvez pas son vin, ne fumez pas son tabac.
C'est pour ça qu'il va fonder le comité central de la
RABDA. Quand on a une population immigrée aussi masculine et aussi nombreuse, qui n'ont d'autre plaisir que de boire un verre de vin rouge au comptoir ou de fumer une cigarette, c'était aberrant. C'était aberrant. Et là, aussi bien Kateb que Issiakem, le peintre, que Malek Haddad, que vous avez cité tout à l'heure, Zinette, le comédien, tous réagissent. Mais quoi faire? Comment faire pour parce que si on est arrêté, bon, surtout que Kateb, il a le faciès...
Et ça va lui arriver, d'ailleurs, il va être arrêté.
Oui, mais bon, il n'a jamais été tabassé, il n'a jamais... Mais on craignait qu'il se fasse arrêter et mutiler, parce que ça allait jusqu'à la mutilation, on coupait le nez des récidivistes. Mais alors, je disais qu'il allait aussi sur un autre terrain, il allait sur le terrain du religieux. Il allait sur le terrain du religieux en disant, bon... Si nous faisons une révolution, il faut la faire également dans ce que l'on appelle aujourd'hui les superstructures. Il faut la faire aussi dans l'idéologie. Il faut penser à la société de demain, une société avec des juifs en Algérie, avec des chrétiens, avec des athées.
Est-ce que c'est une vision qu'on pourrait qualifier de laïque,
oui,
alors, qui est celle de Kateb Yassine ?
Une société laïque. Alors, il n'utilisait pas le terme laïque, mais c'était en fait cela. Et ça ne marchait pas, à tel point qu'il a fallu l'exfiltrer de France et lui donner des missions intellectuelles également auprès des Belges, auprès des Allemands, auprès des Italiens, des Suédois. Et donc ils vont, ces intellectuels, sillonner l'Europe pour... convaincre et surtout provoquer des réactions de solidarité et de soutien au FLN.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites aussi sur la question de la religion. Et là, je reviens un petit peu en arrière au moment où Kateb Yassine était journaliste pour l'Algérie Républicain, parce qu'il va faire un certain nombre de reportages, et notamment un reportage particulièrement intéressant à la Mecque. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment il va vraiment...
C'est le premier bidonneur du siècle. C'est le premier journaliste bidonneur du siècle. Dire Algérie Républicain l'envoie clandestinement, parce qu'il fallait avoir une autorisation du gouverneur général pour aller à la Mecque. Donc clandestinement, par l'international communiste, donc il est embarqué dans un bateau qui s'appelle la Providence, bien nommé, et pour l'emmener à Jeddah, et de Jeddah à la Mecque, et suivre ainsi les cérémonies du pèlerinat. En arrivant à Jeddah, hop, il contourne, enfin il s'en va ailleurs, il va au Soudan, il va voir les communistes soudanais. Mais il écrit, il envoie des articles de la Mecque. Alors, personne ne se rend compte, c'est tellement bien décrit, le voyage, les gens, comment ils se comportent, etc., que on y voit que du feu. Henri Alleg, qui était le rédacteur en chef, n'y a vu que du feu. Ils n'ont su qu'après... parce qu'il n'a pas osé avouer. Bon, mais après, évidemment, il a fallu avouer. Et donc, ça a été son premier...
Donc, ça, c'est le côté un peu mystificateur. Mais ce qu'il dit, du coup, sur le fond, c'est une espèce de condamnation des trois grandes religions monothéistes. Et puis, de dire que ces religions-là sont facteurs d'aliénation profonde.
Absolument. Le principe radical, il est anti-religieux au sens... moderne du terme, au sens où on l'accepte aujourd'hui. Mais il tempère son point de vue en disant qu'il est contre les dévots, enfin, un peu la position de Molière, quoi. Il écrit pour avertir les gens, en fait, de l'hypocrisie et de la malhonnêteté des imams qui sont en même temps bouchers, qui sont en même temps propriétaires fonciers. Il va écrire des textes absolument... mais terribles, aujourd'hui. Enfin, s'il avait été attrapé dans les années 90 par les islamistes, on lui aurait fait subir des atrocités. Il a écrit, par exemple, le prophète aux œufs durs, des chiens du douar, ou des... alors, c'est un petit peu... à la ferme des animaux de... comment il s'appelle, 1984
d'Orwell. Mais on a quand même arrêté Kateb Yassin un peu pour ce genre de raison. C'est l'épisode, par exemple, du Chameau prolétaire, qui est un journal que Kateb et son ami, le peintre Issi Hakem, avaient lancé à Alger en 67. Et là, il a été enlevé. Donc alors, c'est un peu la même démarche.
Oui, j'ai assisté à la visite que nous avions faite à Kateb, parce que les copains syndicalistes l'ont enlevé, mais là c'est un enlèvement prophylactique, préventif, ils l'ont enlevé parce qu'il allait se faire massacrer, parce qu'il avait écrit des textes radioactifs, vraiment explosifs contre les imams, en citant même certains. Donc il avait créé deux journaux successifs. Il avait créé d'abord l'âne prolétaire et le chameau qui bosse. L'âne prolétaire, on lui avait interdit, donc il récidive avec le chameau qui bosse. Mais il y a eu quatre numéros, hein, c'est tout. Et au bout du quatrième, un terrible texte qu'il fait sur les chiens du douar, où ce sont des chiens, donc qui sont des personnages religieux. Même dans des pays très avancés sur le plan de la liberté d'expression, on se dit, bon, c'est quand même, il va un peu fort.
Bon, alors, il faut avancer un petit peu dans la vie, parce que sinon, il ne nous reste plus tellement de temps. On ne pourra pas aller jusqu'au bout. Dire quand même que pendant pas loin de 10 ans, la vie de Kateb Yassin, ça va être, avec sa troupe de théâtre, de parcourir l'Algérie pour offrir finalement au peuple algérien un théâtre qui soit proprement algérien.
Oui, alors ça a été une expérience pour lui fabuleuse, mais qui ne dure pas longtemps non plus. Elle ne dure pas longtemps. Elle commence en 1973. Donc c'est des amis, des patriotes qui sont au niveau du ministère du Travail et des Affaires Sociales, qui créent une compagnie théâtrale qui lui confie avec un budget. Et donc, mais on peut pas le garder à Alger. C'est complètement schizophrène, quoi. On crée quelque chose pour des spectacles et on l'envoie dans un village perdu de...
Parce que le pouvoir ne veut pas ni interdire cette troupe, parce que ce serait trop voyant, mais en même temps...
Alors on l'envoie dans un village de 150 habitants. Donc il faut des moyens de transport considérables, il faut loger les comédiens, il faut... Il tient le coup, hein, il tient le coup.
Jusqu'au moment où il va quand même passer la main à l'un de ses comédiens.
C'est pas possible, quoi. C'est plus tenable. Il n'arrivait plus à produire, et puis on a commencé à le saboter. C'est-à-dire qu'il arrivait dans une ville avec son car et son camion de décor, et il n'y a pas de courant, où la salle est prise. Où le préfet a interdit.
Donc c'est tout le temps ça, la vie de Kateb Yassin, c'est l'homme empêché finalement.
C'est l'homme empêché, c'est l'homme refusé dans ce qu'il a de meilleur, dans ce qu'il a de plus beau, et dans ce qu'il a de plus généreux également, c'est-à-dire de donner du plaisir à voir une pièce de théâtre, à entendre de la poésie, et ça on lui a interdit. Mais ça c'est pour ça que la révolution d'aujourd'hui, tout à coup, nous montre que nous avons été une société neurasthénique, que nous avons été une société complètement perclue de manque, alors qu'on avait tout. On avait tout. Et on constate que rien d'extraordinaire n'a été produit dans ce pays parce que un groupe d'hommes se légitimant par la guerre de libération, alors qu'ils n'ont pas été de grands libérateurs, hein, c'était des hommes des frontières, disent aujourd'hui, bon, L'État, c'est nous. Nous, on va assurer votre bonheur.
Alors, la mère de Katabiassine, elle est morte le 7 octobre 1980, à l'âge de 74 ans. C'est évidemment quelque chose qui est très, très, très douloureux pour lui. Et puis, lui, c'est 9 ans après. Vous étiez d'ailleurs là, au moment où il va décéder, ce 28 octobre 1989, au matin, en salle de réanimation, à l'hôpital de la Tronche, à Grenoble, et ensuite il a été rapatrié. Et vous racontez son enterrement, qui est un enterrement finalement assez joyeux et presque iconoclaste.
C'est un enterrement joyeux qui ressemble aux manifestations de maintenant. Et ça, je voudrais envoyer justement un message de remerciement et de joie à mes compatriotes qui marchent. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Le cortège. Entre le cimetière et le lieu du départ du cortège, il y a une quinzaine de kilomètres. Eh bien, la dernière voiture n'a pas pu démarrer. L'international.
Merci Benamar Medienne. Je rappelle que votre livre Katabiassine, Le cœur entre les dents, a paru en 2006 aux éditions Robert Laffont. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Dîner Pinot. Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Garance Mazelier et Ludovic Auger. Demain, c'est la suite de notre série consacrée à l'écrivain algérien Katabiassine. Nous ferons le parcours de l'œuvre. Ce sera avec l'universitaire Charles Bonne. Mais tout de suite, eh bien, on le salue tous sur France Culture. C'est le retour de Jacques Bonafé et de ses lectures de poésie.
Bonjour, bonjour la compagnie. Nous passons quelques jours avec les Pays-Bas, invités d'honneur du 37e marché de la poésie qui débute à Paris. Pas si bas que ça, les invités des Pays-Bas, puisqu'ils se trouvent au-dessus des Hauts-de-France. Et, oui, qu'on y parle néerlandais comme Benno Barnard, dont paraît Le service de mariage, édition Inuit au Castor Astral. Et le premier poème, ah, Benno Barnard, il a pas peur de l'autoportrait, il y a du Rembrandt là derrière, il ne s'épargne pas. Le premier poème, c'est Mots enterrés. Je rêve d'une taupe ancestrale qui me ferait signe. Mais quel infantile espoir que celui d'une galerie ouatée, d'un papa et d'une maman taupe qui accueillerait le visiteur devant un feu douillé, alors que ça court et que ça creuse sous terre, que se précipitent dans les excavations mille fois mille taupes d'un noir brillant, d'une rugosité de velours, moi, impuissant, sur le dos, sous le poids de ce que j'ai en horreur, affixé asticots et pissenlits, bouche pleine de terre et d'immondices, tandis qu'en bas, ça grouille de preuves darwiniennes irréfutables. Premier rêve, un faible jour m'éveille, le réfrigérateur a faim, l'âtre a froid. Au fond, pourquoi me faut-il être? Ça n'est toujours pas clair. Je mange et je bois, je palpe mon égo, mon journal intime me fait mal, puis la nuit revient et je rêve comme un fou. Je rêve de mon père mort, couché entre les racines des tilleuls, visage enfoui dans les fondements de la langue. Un vague écho de mélodie tendue, le romantisme menace tel l'orage. Le Rhin gonfle, la charnière d'une époque qui aspire aux grandioses, hérite de Schubert, Novalis, Neuschwanstein. Du suicide et de la syphilis, tous ensevelis depuis déjà deux siècles sous des vivants exténués, sous des tilleuls déplumés. Deuxième rêve, je m'éveille dans une chambre glaciale. Impression que le vent projette des vapeurs grises autour de mon crâne nu. Du noir sort de ma bouche. Ouais, écrire, tu sais faire. Ce qui t'empêche pas d'éprouver le bon sentiment. Tout bien pesé, t'as pas de colonne vertébrale. T'es plutôt vu de l'esprit que vécu bien compris, hein? Ne t'en veux pas pour autant. Tu t'es pas fait toi-même. Ainsi cogite le jour en moi, et pour la troisième fois, la nuit réunit des moutons. Attroupement de statues au pied de ma fenêtre, elle lève des yeux interrogateurs en manque d'attention, belle. Et sous un début de pluie, je rêve qu'un mot enterré de mon père se fraye un passage dans la terre, le mot d'un poème qui nous connaît. bien des gens et moi. Au loin, mon père rit de mes tourments postmodernes, de ma vanité, de mes névroses. « Fiston, je l'entends dans mon rêve, prends soin de tes enfants tout comme j'ai pris soin de vous. Vénère ta femme de tout ton cœur, de toute ta bite. Fais mémoire de moi, tout ce que tu portes en toi. Écris-le sans oublier d'effacer le penultième poème. »
Jacques Bonafé avec une semaine en lien avec les Pays-Bas, pays invité du marché de la poésie à Paris.